Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de
Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. Bonjour, bienvenue pour cette 49e émission de
Élève-toi
avec les enfants
sur
Radio Vassivière.
C'est Émilie qui vous parle depuis le studio de Feltin. Et oui, ça va bientôt faire 2 ans que ces émissions ont commencé et qu'elles se trouvent en replay sur radiovassivière.com, onglet émissions. Élève-toi avec les enfants, il y en a 2 pages. Et si vous découvrez là aujourd'hui, eh bien, je vous recommande d'aller écouter les premières parce que j'apporte des bases. Et après, je vais de plus en plus loin, Ça n'empêche pas de prendre en cours, mais quand même, il y a des bases intéressantes à aller écouter. Vous trouverez des émissions spéciales sur les bébés, des émissions sur les émotions, sur la colère, plusieurs interviews. Pas mal d'outils de l'approche hand-in-hand parenting du livre Écoute de Patty Whitfler, dont je parle très souvent. Et puis plein d'autres sujets comme ça aussi, des émissions spéciales pour les instits. Voilà, voilà. Il y en a un petit peu pour tous ceux, j'espère, qui s'occupent des enfants, que ce soit à la maison ou au travail, et qui ont envie de faire mieux, de s'améliorer. C'est déjà un bon départ hein, quand on a envie de s'améliorer. Ça veut dire déjà, c'est bon signe, on n'est pas dans le déni. Hein. On n'est pas dans le déni qu'on a une belle marge de progression. Et oui, parce que oui, c'est vrai, on a une belle marge de progression. Et il est important à la fois eh bien, d'être indulgent envers nous-mêmes, mais de garder cette envie de progresser, cette responsabilité, ce sens du devoir de faire mieux. Mais sans se mettre la pression et sans culpabiliser. Parce que la semaine dernière, j'ai parlé du ressentiment qu'on peut nourrir envers les autres qui ne font pas aussi bien qu'on aimerait. Mais il y a aussi ce ressentiment que l'on peut nourrir envers nous-mêmes. Oh, qu'est-ce que je suis loin d'être la maman que j'aimerais être. Ah, qu'est-ce que je suis loin d'être l'instit, l'éducatrice que j'aimerais être. Eh bien non, ça, ça ne va pas faire du bien. Alors oui, je lâche. Je ne juge pas les faits d'hier avec la conscience d'aujourd'hui et je garde le vœu tout le temps de faire mieux. Et vous savez, les enfants, eh bien, ils peuvent vite aller mieux. Ben oui, il suffit quoi ? Il suffit d'une bonne dose d'amour, voilà, qui arrive d'un seul coup, d'un cœur qui s'ouvre, d'une attention qui est là portée sur eux, ça y est. On leur permet d'être eux-mêmes, on les écoute, on va pas les humilier, on va pas leur faire de chantage, on va pas leur crier dessus. Et là, tout peut basculer, hein, en peu de temps. Et oui, heureusement. Donc voilà, allez, espoir, sens des responsabilités et toujours voilà, aller de l'avant en restant positif, sans se juger. Même si je sais parfois c'est pas facile de se dire zut, j'en suis encore là. Mais voilà, toutes les connaissances et tous les outils sont là à notre portée. Alors allons-y. Aujourd'hui, je vais parler de différentes choses, déjà des petites anecdotes comme ça, voilà. Donc, je vois une professionnelle qui constate qu'un enfant ne la regarde pas et ne regarde d'ailleurs aucun adulte, limite même pas les enfants. Si, peut-être un peu plus les enfants, mais en tout cas les adultes, non, ils fuient le regard. Ils fuient le regard et lui dire, bah, mais regarde-moi enfin, c'est plus agréable quand on te parle que tu me regardes. Alors, qu'est-ce qui se passe pour cet enfant qui ne regarde pas dans les yeux ? Ça veut dire quelque chose de très très clair, nous apprend Patty Whitfler, ça veut dire qu'il est déconnecté. Cet enfant n'est pas nourri par une connexion avec un adulte en qui il a confiance et qui lui permet d'être connecté, son cerveau connecté, son cœur connecté, tout connecté à l'intérieur. Et donc la capacité après à aller gérer des émotions, à aller apprendre et être avec les autres. Voilà, ça nous dit, la connexion n'est pas là. Aucun adulte n'est en... Je suis en confiance avec aucun adulte. Je ne me sens écoutée, compris par personne. Et probablement, eh bien oui, ça veut dire que la connexion n'est pas là avec les parents. Et elle est là, la toute première connexion, bien sûr. Et voilà, si l'enfant n'arrive pas à regarder les professionnels dans les yeux, mais c'est intéressant de le regarder quand il est face à ses parents. Est-ce qu'il les regarde dans les yeux, eux ? Lequel des deux il ne regarde pas ? Et ça vient nous dire, voilà, qu'il n'est pas nourri, il ne se sent pas en sécurité, cet enfant. Il ne se sent jamais en sécurité. Alors comment voulez-vous, après, qu'il soit avec les autres de bonne humeur et qu'il puisse facilement et à chaque instant entrer dans les apprentissages et écouter les consignes qu'on lui dit? Et maintenant, ce n'est pas possible. La connexion n'est pas là. Alors, est-ce que c'est une fatalité? Eh bien non, comme je le disais à l'instant, même si cette connexion n'est pas là et que les parents ne sont pas demandeurs d'écouter cette émission, par exemple, ou de lire les magnifiques livres que je conseille, ou toute autre approche qui portera ses fruits, je m'en fiche, j'en ferai. Eh bien, si le professionnel peut être là avec lui assez longtemps et connaît tous ses outils, eh bien, il est possible d'établir une connexion qui soit si forte pour l'enfant que ça va le permettre de tout reconnecter à l'intérieur et de reprendre le chemin. Mais ça va demander beaucoup de choses et ça demanderait aussi, bien sûr, de pouvoir écouter les émotions. Et je sais, je le constate et j'en ai fait l'expérience, bien sûr, mais c'est pas bien sûr en fait, malheureusement plutôt. Il y a peu de place pour l'expression des émotions des enfants. Alors oui, devant les autres, ça serait pas agréable, c'est sûr. Mais si on passe notre temps à vouloir l'empêcher d'exprimer sa frustration, l'empêcher d'exprimer sa tristesse et sa colère, eh bien, ça ne changera jamais. Eh bien non, il va falloir trouver l'espace-temps pour qu'il y ait une porte de sortie, pour qu'il puisse faire sortir tout cela. Et il ira bien mieux, bien bien mieux après. Allez, autre anecdote. Comment je peux faire mieux quand j'ai l'habitude de vivre dans un climat où on parle mal aux enfants? Comment je peux relever le niveau? Eh bien déjà, modèle les uns les autres, eh bien c'est de ne plus dire ce qui ne va pas. Hein, c'est ne plus mettre en valeur ce qui ne va pas, mais bien formuler ce qui est attendu. Alors plutôt que de dire « arrête de parler tout haut, tu fais trop de bruit, etc. » Et alors là, plus on en dit, plus on patauge, plus on perd l'enfant. Juste dire « tu sais parler avec une petite voix ? Je suis sûre que tu sais parler avec une petite voix. Fais voir comment elle est ta petite voix. » Et après, on va lui rappeler. C'est ça le comportement qui est attendu, c'est la petite voix. Et nous-mêmes, à nous d'être la petite voix. Hein ? Quand on est avec les enfants, on ne va pas donner des ordres comme ça à l'autre bout de la salle, à l'autre bout de la maison. Mais non, on va se rapprocher, on va demander à l'enfant de venir, mais on va faire les demandes en rapprocher sans les crier. Si nous-mêmes on fait ça, eh bien on induit une ambiance plus calme. Voilà, c'était pour des petites anecdotes. Alors ensuite, j'ai envie de vous lire une histoire. Cette histoire, elle s'appelle Super Lumineuse. Elle est écrite par Yann, alors je ne sais pas monsieur, je suis désolée si j'écorche votre nom, 2AS ou 2S, voilà, il vient peut-être de Belgique comme le livre, je ne sais pas. En tout cas, c'est chez Alice Jeunesse, histoire comme ça. Donc une maison d'édition belge, Super Lumineuse. Il y a le lien sous l'émission sur le site. Et c'est un bel album. Un très bel album, j'ai trouvé. Et il est aussi illustré par ce monsieur qui en a écrit d'autres que j'ai jamais lus, mais ça m'a bien donné envie d'aller demander à la médiathèque de Feltin s'ils avaient les autres. D'ailleurs, ce livre, je l'ai emprunté à la médiathèque. Et quand j'aurai bien accepté de le rendre, vous pourrez aussi l'emprunter. Je pense que je vais l'acheter, bien honnêtement. Alors, Super Lumineuse de Yann Dehesse, c'est parti. Nour est née lumineuse, elle rayonne, elle scintille, comme si un petit soleil brillait en elle. Nour adore sa lumière, elle se sent incroyable, spéciale, elle passe ses journées à explorer les pièces les plus sombres de la maison. Son endroit préféré, c'est le grenier. Elle affronte les monstres et les fantômes qui s'y cachent. Elle adore regarder les étoiles. Elle se sent un peu comme l'une d'entre elles, brillante, étincelante, mais un rien perdu dans l'univers immense. Quand il y a beaucoup de monde, Nour se sent mal à l'aise. Elle ne sait pas toujours ce qu'on attend d'elle. Elle préfère être seule. Elle adore lire des histoires dans son lit bien au chaud, surtout des histoires qui parlent de super-héros. Aujourd'hui, c'est son premier jour d'école. Nour choisit ses plus beaux vêtements. Même si elle a un peu peur, Elle a quand même hâte de rencontrer les autres enfants et de leur montrer sa belle lumière. Elle est sûre qu'elle va les impressionner. Et en effet, lorsqu'elle arrive à l'école, elle est au centre de l'attention. « Comment tu fais ça ?» demande Younes. « Oh, je ne sais pas, je suis née comme ça, c'est un peu un super pouvoir, » répond Nour. « Tu as déjà sauvé quelqu'un comme les vrais super-héros ?» lui demande Chloé. « Les vrais super-héros ont des beaux costumes, » explique Benjamin qui a l'air de s'y connaître. « Il est où ton costume à toi ?»«
Oh, tu peux baisser ta lumière ?» demande Lucie. « Elle me fait mal aux yeux. »
« Bon, être lumineux, mais ça n'a rien d'un super pouvoir, » décide Léa. « Les vrais super-héros, ils peuvent voler, passer à travers les murs, ou être super forts, comme moi.
Mais être lumineux,
bon, ça c'est vraiment pas super. »
Nour se dit que Léa est un peu jalouse, mais qu'elle a un peu raison aussi. C'est vrai, pense Nour, je ne suis pas si spéciale, je ne suis pas super forte, je ne suis pas super rapide et je ne suis pas super drôle. Je ne sais que briller, et comme une ampoule. Si seulement j'avais de vrais pouvoirs. En rentrant chez elle, Nour ne se sent pas bien. Elle a l'impression d'être trop visible, que tout le monde la regarde. Elle se dit que les gens doivent bien voir qu'elle n'a rien d'extraordinaire malgré sa lumière. À ce moment précis, au lieu d'être elle lumineuse, Nour préférerait être invisible. Alors les jours suivants, elle met des vêtements épais et sombres qui ne laissent pas passer la lumière. Elle enfile même des gants et un bonnet. Elle ne veut plus qu'on la regarde, qu'on parle d'elle. Elle ne veut plus être remarquée. Et elle se fait si discrète qu'à force, les gens oublient qu'elle était lumineuse. Elle passe maintenant inaperçue. Un soir, Nour se rend compte que sa lumière est presque éteinte. Il ne reste plus qu'une toute petite flamme au fond d'elle, on la voit à peine. « Tant mieux, » dit Nour, « de toute façon, elle ne me servait à rien, cette lumière. Et en même temps, c'est un peu bizarre. » Elle, qui n'avait jamais eu peur du noir, se sent maintenant submergée par la nuit froide qui l'entoure. Alors qu'elle essaie de s'endormir, elle entend sa petite sœur pleurer dans la chambre d'à côté. Elle pleure super fort, comme un dragon. Nour sait que c'est parce qu'elle aussi a peur du noir. Alors Nour se lève et s'approche doucement de sa petite sœur. Sa lumière n'est plus très forte, mais lui comme une veilleuse. C'est assez pour que le bébé se calme. Nour se glisse dans le petit lit et serre sa sœur fort contre elle. Si elle pouvait lui donner sa lumière pour qu'elle n'ait plus peur, elle le ferait sans hésiter. Les deux fillettes s'endorment l'une contre l'autre, apaisées. Le lendemain, les parents sont éblouis en découvrant leur fille. Les yeux encore pleins de sommeil, Nour se rend compte que sa lumière n'a pas disparu. Elle a même grandi. Et sa petite sœur aussi est toute brillante. Nour est contente. Elle comprend qu'elle peut partager sa lumière. Ce n'est plus un poids qu'elle doit porter seule. Cette fois, elle n'a plus envie de la cacher. Elle a envie d'éclairer toutes les petites sœurs du monde pour qu'elle n'ait plus jamais peur. Elle est peut-être bien une super héroïne, finalement. Après avoir embrassé son papa et sa maman, qui deviennent aussitôt tout lumineux, elle sort de la maison plus étincelante que jamais. Elle se rend compte que simplement en regardant les gens dans les yeux et en leur souriant, elle peut partager son pouvoir. Elle est vraiment super lumineuse.
Élève-toi
avec les enfants
sur
Radio Vassivière.
Et oui, vous êtes toujours à l'écoute de la 49e de Élève-toi avec les enfants et je viens de vous lire l'album Super Lumineuse de Yann Dehès chez Alice Jeunesse, le lien sous l'émission. Ah, ça fait du bien, hein, un bel album, parce que peut-être vous m'avez déjà entendu dire que c'était pas trop ma tasse de thé, la littérature de jeunesse, que je conseillais globalement les contes, les mythes et les légendes, mais je dis toujours aussi, bah, y a quand même quelques albums qui sont bien, hein. Celui-là et ceux de Pauline. Alors j'espère que je... Pauline Martin et Astrid, ah excuse-moi Astrid, j'ai oublié ton nom. Hein, avec Archibald, de mon amour, un amour de petite sœur, ce que papa m'a dit. Tiens, j'irai voir si elles en ont fait d'autres. Et avant de venir, je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que je raconte en fait aujourd'hui dans cette émission? Parce que en fait... Je prépare un petit peu, mais enfin, je ne fais pas exprès de préparer. Hein, je ne me mets pas à bon bureau en disant « Là, maintenant, je prépare la prochaine émission. Hein, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter d'intéressant? Voyons voir. » Non, pas du tout. Je vis, j'entends des choses. Des fois, j'ai des questions. J'aime bien quand il y a des questions. Et puis, j'ai des enfants, forcément. Et puis, j'ai repris mon travail auprès des enfants. Il y a des choses qui me viennent. Et puis, voilà. Donc, globalement, je dis « Ah, tiens, ça, j'en parlerai à la prochaine émission. » Voilà, voilà. Et puis, des fois, avant de venir, je me dis « Oh, tiens. » Et là, comme ça, je passe devant mon étagère et je me dis « Tiens, ce livre-là, je vais regarder. » Et ce livre, j'ai pris quoi? J'ai pris Les moins de 7 ans de E. Alors, je ne sais même pas qui c'est E. Grunelius, édition Triade. Édition Centre Triade, voilà. Et je l'ai ouvert un petit peu au hasard, parce que, enfin, le hasard, vous savez. Hein, Elisabeth Grunelius, chère Elisabeth, voilà. Et j'ai ouvert page 38. Et puis, j'ai commencé à lire. Puis, je me suis dit, c'est exactement un truc dont j'aime bien parler. Et puis, ça tombe pile avec ce que j'avais envie de faire. Alors, j'y vais. Deuxième lecture, la première était pour les enfants, mais comme vous l'aurez compris, elle était aussi pour les parents. Et celle-ci, elle est plutôt pour les parents. Alors, les moins de 7 ans, page 38. Une autre occupation qui s'adresse au groupe tout entier, ce sont les histoires racontées. Et ici, l'atmosphère dans laquelle baignent la conteuse et les petits auditeurs n'est pas moins importante que le contenu de l'histoire. Il vaut mieux raconter soi-même que lire dans un livre. On peut aussi raconter le livre à la main en montrant aux enfants les images qu'il contient et en parlant de son propre mouvement. Pour les petits du jardin d'enfants, voilà, c'est quelqu'un qui travaille en jardin d'enfants, pédagogie Waldorf Steiner, l'important dans l'histoire, c'est ce que font les personnages. À chaque phrase, l'action doit faire un pas en avant. Et l'on doit donner assez de détails pour intéresser les jeunes auditeurs, mais pas plus qu'il n'en faut. Quant au choix des contes, nous recommanderons surtout certains contes de Grimm qui sont chers au cœur des petits et encore préserver des considérations inspirées par l'utilitarisme de notre civilisation moderne. Bien que les personnages en paraissent irréels à notre mentalité matérialiste, les contes de fées authentiques contiennent de grandes vérités et sont imprégnés d'une profonde connaissance de l'âme humaine. Pour le voir clairement, pensons aux défauts et aux qualités des humains et à la manière dont nous en faisons l'expérience dans la vie. Les notions de bon et de mauvais ne sont chez l'adulte liées à aucune image. Elles ne peuvent être saisies par l'enfant si on ne les traduit pas dans cette langue des images qui est la sienne. Et si nous procédons à cette métamorphose, nous obtenons précisément les images contenues dans les contes. Pourquoi une image exprimant la méchanceté serait-elle moins vraie qu'une définition de ce défaut? Notre idée de bonté apparaît dans les contes sous la forme du prince dont le cœur pur et l'altruisme se manifestent, ou du chevalier plein de force et de vaillance, ou de la fée bonne et secourable. C'est précisément parce que les contes et les histoires rapportent des expériences intérieures et non pas des faits de la vie quotidienne qu'ils racontent tant de choses qui sont en contradiction avec le cours ordinaire de l'existence. Mais là, c'est précisément que réside leur vraie valeur. Il parle par exemple de la haie d'épines qui s'ouvre pour laisser passer le prince qui veut délivrer la princesse. Si l'histoire rapportait que le prince prend sa cognée et sa scie et qu'il travaille des jours durant 8 heures par jour pour se frayer un chemin, cette histoire serait conforme aux exigences de la vie ordinaire. Or, il est dit au contraire que le prince avance vers la haie et qu'il lui suffit de tirer son épée pour la voir s'ouvrir devant lui. Mais les haies de cette sorte n'existent pas, disons-nous. Si nous prenons conscience du contenu véritable du récit qui parle d'expérience intérieure, nous comprenons cependant mot à mot ce qu'il signifie. Nous connaissons bien, par exemple, un certain état de fatigue excessive. Notre pensée est alors tendue, les idées s'enchaînent plus rapidement, cet enchaînement se poursuit pendant un certain temps, puis s'interrompt, puis reprend de nouveau. Dans cet état intérieur, nos pensées sont aussi plus précises, plus figées et ont des contours plus durs. Pendant les heures d'insomnie, elles se déroulent inlassablement. À maintes reprises, nous nous efforçons de vaincre un souci. Nous nous évertuons de toute notre intelligence à le dominer, cependant la solution nous échappe. Les pensées s'impriment fortement, elles deviennent véritablement douloureuses, s'entrelacent et s'imbriquent les unes dans les autres, et l'image d'une haie d'épines est ici tout à fait juste. Qu'un ami survienne à ce moment et veuille nous porter aide en reprenant nos arguments pour en dénouer l'enchaînement, et la haie d'épines des pensées devient plus épaisse, plus impénétrable encore. Que notre ami, au contraire, laissant toute argumentation de côté, nous ouvre par sa sagesse une nouvelle façon de voir les choses, et dans cette lumière nouvelle, la situation nous paraîtra autre et la haie d'épines peut véritablement s'ouvrir d'elle-même.
Lorsque l'enfant suit du fond du cœur le déroulement des images qui dépeignent de tels faits, et finalement s'écrie plein d'enthousiasme « Moi aussi, je voudrais être un prince comme celui-là », et que la conteuse, pour apaiser sa conscience, lui répond « Non, mon petit, on ne devient pas un prince, on l'est de naissance », tout l'effet de l'histoire est détruit. Comprenons-le bien. Les scènes des contes appartiennent au royaume de la vie intérieure et elles n'empruntent guère que les mots aux choses de la vie extérieure. Le prince de l'histoire n'est pas un prince par le sang, par l'hérédité, mais par la pureté de son cœur et par sa vaillance. Et sans entrer en conflit avec sa conscience, on peut répondre « Oui, mon petit, j'espère bien qu'un jour, quand tu seras grand, tu sauras aider ceux qui auront besoin de toi. Et tu seras alors comme le prince dont parle l'histoire. » Les contes, ce n'est pas un simple passe-temps, une agréable manière d'occuper les enfants, mais un élément essentiel dans l'éducation, et ils s'adressent aux forces les plus délicates de l'âme humaine. Pour venir en aide à certains enfants plus âgés dans une situation donnée, l'éducateur peut toujours recourir, d'une manière générale et sans viser intentionnellement un enfant précis, aux récits transmis par la sagesse populaire et qui montrent comment diverses qualités morales agissent dans la vie quotidienne. Si l'on s'aperçoit par exemple qu'un des enfants s'incline à vouloir posséder toujours plus de choses et n'est jamais satisfait, on peut raconter l'histoire de la femme qui souhaitait constamment quelque chose et dont le souhait était aussitôt exaucé. Mais à peine la chose était-elle accomplie que déjà elle avait un nouveau désir à son tour exaucé et suivi d'autres encore qui devenaient de plus en plus grands, de moins en moins raisonnables, jusqu'à ce que finalement, elle se trouva dépouillée de tout et Gros-Jean comme devant. On observera peut-être chez un autre enfant qu'il devient le jouet de certains camarades, se laisse facilement entraîner au mal et fait ensuite des choses qui le mettent en mauvaise posture. On rencontrera alors l'histoire de Jeannot l'Heureux, qui avait reçu de son maître pour ses bons et fidèles services un lingot d'or qu'il rapportait chez lui. En chemin, il se laissa convaincre d'échanger son lingot contre un cheval, puis le cheval contre une vache, la vache contre un cochon, le cochon contre une oie, et ainsi de suite, jusqu'à finalement en avoir plus rien, et sans même qu'il s'aperçût qu'on l'avait dépouillé. Voilà, c'était un extrait du livre qui s'appelle « Les moins de 7 ans » de Elisabeth Grunelius aux éditions Triade. Donc là, c'était un bain dans la pédagogie Waldorf-Steiner. Voilà. Donc d'abord, je vous ai lu un livre et puis après, je vous ai lu plutôt un texte d'une professionnelle qui nous raconte combien il est bon de raconter plutôt que de lire. Ouais. Et ça, j'en ai déjà parlé, l'intérêt de raconter des histoires et même de les inventer, de les attraper là dans le ciel et hop, de les manger et de les sortir. Allez, eh ben, je vous fais écouter un morceau de musique et après, je vous en raconte une là, que ma marionnette a chopée au bout de sa main, inspirée d'une autre, bien sûr, ou d'une image, je ne sais plus. Mais voilà, pas sortie de nulle part. Alors, j'ai envie de vous faire écouter un morceau de Albinoni, Adagio. Joué par l'orchestre de chambre de Copernicus, je ne sais pas exactement comment on dit, festival de musique de l'Escala. Ce morceau dure 8 minutes 26. Allez, ça fait long, hein, ça, dans une émission d'une demi-heure. Alors écoute, je t'ai pas demandé la permission, Didier, mais je vais faire une émission plus longue que d'habitude. Voilà, alors j'espère qu'elle sera pas coupée. Mais je peux pas couper ce morceau, il est trop beau. Et puis je me suis dit que ça avait peut-être un intérêt. Eh bien oui, je l'ai trouvé l'intérêt. Des fois, dans le travail, je rencontre des gens qui s'occupent des enfants ou des ados, des jeunes, et qui me disent qu'ils ne sont pas capables de rester... Enfin, la méditation, ah non, ça, c'est pas pour moi, ça paraît impossible de juste rester là, tranquille, à rien faire. Et ça me paraît fou. Moi, je me dis, non, mais comment c'est possible? Comment on peut s'occuper d'enfants et juste avoir peur à ce point de se retrouver seul avec soi-même? Ben oui, allez, un jour, Je vous ferai une émission un jour sur la formation idéale de tous ceux qui s'occupent avec les enfants. Bah oui, je suis derrière mon micro, j'ai mon émission, je raconte ce que je veux. Bah voilà. Et bien voilà, le défi est celui-ci. Passer 8 minutes 26 à ne faire qu'écouter et à rien d'autre. Par contre, si vous conduisez, soit vous arrêtez, mais, ou sinon vous continuez de conduire. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Tommaso Albinoni Adagio. Enfin, lui, c'est le compositeur, hein, c'est pas lui qui joue. Thank you.
Et voici l'adagio de Tommaso Albinoni. Et vous n'êtes même pas sur France Musique ni sur Radio Classique, non, vous êtes sur...
Radio Vassivière.
À l'écoute de la 49e émission de...
Élève-toi.
Avec les enfants. Une émission de Émilie, ma maman.
Et voilà, on continue. Waouh, moi j'ai rien fait aussi, hein, et j'adorais. J'espère que vous aussi. Alors une histoire. Alors je mets ma marionnette sur ma main. Une histoire qui demande d'avoir une pomme et un couteau. Voilà, et si possible un beau dessin d'une étoile à cinq branches. C'est l'histoire d'une étoile. Une étoile qui brille dans le ciel, qui est magnifique. Elle a cinq branches. Elle s'appelle Mela. Mela est une étoile vagabonde, c'est une jeune étoile, elle aime se promener dans l'univers. Et là, elle voit un soleil. Oh, bonjour soleil! Et elle s'approche et elle voit qu'il y a des planètes qui tournent autour de ce soleil. Elle en voit plusieurs, il n'y a pas grand-chose à voir à la surface, on dirait qu'ils sont tous plaqués dedans. Et oh, oh là, elle en voit une. Oh, elle est belle celle-là, elle est bleue et un peu verte aussi. Oh, mais... là, il se passe des choses, il y a des choses à voir à la surface. Alors elle s'approche, mais pas trop. Une comète passe et lui dit « Attention, si tu t'approches trop, tu seras changé en mille éclats d'étoiles. Oh, » en mille éclats d'étoiles. Alors je vais rester un petit peu à distance. Et alors elle regarde ce qui se passe sur cette planète et il se trouve qu'à ce moment-là, c'est le printemps. Elle voit des fleurs blanches. Magnifique. Et même d'où elle sent déjà leur odeur. Oh, une odeur somptueuse. Oh, que ces arbres sont beaux. Elle apprécie beaucoup ces arbres. Elle apprécie cette planète. Elle se prend vraiment d'un élan d'amour pour cette planète. Et elle aimerait bien, quand même, elle aimerait bien approcher un peu. Alors elle en parle au soleil, hein, son ami, une autre étoile comme lui. Oh, comment je pourrais faire pour approcher un peu plus? Cette comète m'a dit que si je passais l'atmosphère, alors je serais changée en mille éclats d'étoiles. Oui, c'est vrai, lui dit le soleil. Mais tu peux choisir de venir mettre tes éclats d'étoiles dans une forme qui existe déjà sur cette planète, si tu le souhaites. Mais tu n'en partiras plus. Oh, alors Mela hésite. Elle hésite, continuer à vagabonder dans le ciel ou bien venir là, sur cette planète et... Oh, ces fleurs sont tellement belles, alors c'est parti. Elle choisit, elle va passer l'atmosphère et elle va rentrer dans ces fleurs. Et hop, le grand pas est là, elle y va. Et vloup, mille petits éclats d'étoiles arrivent dans l'atmosphère de la Terre et viennent se loger dans ces magnifiques fleurs blanches qui sentent si bon, qui sont des fleurs de pommier. Alors Mela est là, dans ses mille étoiles. Et ses fleurs deviennent des pommes. Et oui, des beaux fruits. Alors Mela se retrouve à l'intérieur de ses mille pommes. Et un jour, des enfants mangent une pomme et la coupent dans l'autre sens. Et oui, dans le sens de la latitude et non de la longitude. Et là, qu'est-ce qu'ils découvrent? Une étoile à cinq branches au milieu de leurs pommes. Ils le montrent à leurs parents, ils le montrent à leurs amis. Qui n'y croient pas, ils croient que c'est juste un petit hasard comme ça. Et puis, si, à d'autres endroits ailleurs, d'autres enfants font la même expérience et tombent sur des pommes qu'ils toupent sur le côté et ils voient des étoiles dedans. Comme quoi la vie est bien plus belle que ce qu'elle n'y paraît aux yeux des adultes, hein, parfois. Alors Mela se retrouve croquée par mille enfants dans le monde et apporte sa lumière dans ses mille enfants. Alors Mela se dit que elle va demander au soleil si elle pourrait être dans toutes les fleurs de pommier de toute cette planète et ainsi être mangée par plein d'enfants et plein d'adultes et pouvoir répandre cette lumière partout. Et le soleil accepte. Alors nous voici avec des beaux fruits, des pommes, avec une étoile à cinq branches cachées dedans. Mais qui l'a vu? Qui l'a vu? Alors je vous invite à prendre votre pomme dans l'autre sens et à la couper pour voir si la vie est vraiment plus belle que ce qu'elle n'y paraît. Voilà, C'était l'histoire de Mela, et il paraît même que dans certains pays, on se rappelle de cette histoire et qu'on a donné comme nom aux pommes Mela. Voilà, c'était la 49e émission de
Élève-toi
avec les enfants
sur
Radio Vassivière.
Et bien, je vous souhaite une bonne suite de journée. Je vous souhaite des bonnes vacances pour tous ceux qui y sont, avec des moments magnifiques avec vos enfants si vous en avez et les enfants des autres si jamais. Et puis des bonnes vacances ressourçantes, et reposantes et enrichissantes, j'espère, pour tous ceux qui travaillent avec les enfants. Allez, à bientôt.